Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Courtoisie. Cette émission, donc Benjamin Blanchard au micro, cette émission à la découverte des églises d'Orient. Et donc je suis avec Henri Devilliers comme chaque mois. Bonsoir cher Henri.
Bonsoir Benjamin, bonsoir chers auditeurs.
Et pour les distraits ou ceux qui nous rejoignent en cours de route, je vous représente donc cette maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile qui chante à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris, rue du Conservatoire. Chaque dimanche, la grand-messe à 11h et les vêpres à 17h45. Et en semaine, les méfêtes importantes à 19h, le tout diffusé sur la chaîne YouTube IT Missa Est, mais également vous êtes chef de chœur à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, où il y a la divine liturgie ou parfois les matines, chaque dimanche à 9h15.
Tout à fait.
Et ça, c'est dans le 16e arrondissement, rue François Gérard, à côté de l'église d'Auteuil. Et vous êtes patron d'émission sur Radio Courtoisie avec l'émission Liturgie et Musique Sacrée du dimanche à
15h.
15h, voilà. Je ne sais jamais si c'est 15h ou 16h. Et donc, nous sommes dans notre série d'émissions consacrées à l'histoire de la Russie, chrétienne, mais aussi des fêtes, des grandes fêtes russes qui marquent l'année liturgique en Russie, avec aussi des évocations musicales de chacune de ces fêtes, avec les pièces importantes de la liturgie du jour. Et donc là, c'est le 47e épisode déjà consacré à
49e épisode.
Pardon.
49e.
48e.
Ah non,
49e, pardon.
49e. Bon. C'est le 115e sur les chrétiens d'Orient.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que nous avions au départ pensé faire une émission par famille liturgique. Que dès la première fois, c'était pas possible de faire tenir les Assyro-Chaldéens en une seule émission. Donc voilà. Et puis il y a une inflation qui n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure de nos parcours de l'Orient chrétien. Et voilà, nous sommes à 49 émissions sur la Russie.
Voilà, mais parce que c'est le format un peu évolué aussi. Là, maintenant, vous racontez l'histoire du pays, voilà. De la chrétienté dans le pays, etc.
Oui. Ce qui est aussi l'occasion de voir des figures de sainteté. On en verra aujourd'hui quelques-unes, du reste, je pense.
Voilà. Et donc aujourd'hui, comme nous sommes le 29 août, c'est, je crois, la fête.
Alors, nous sommes le lendemain de la fête de la Dormition ou de l'Assomption, qui était célébrée hier vendredi. Et donc, c'est une grande fête de l'année liturgique. Elle fait partie des 12 grandes fêtes de l'année byzantine. Et à ce titre, elle est précédée d'une période de préparation dont on a déjà parlé dans ces émissions. Le jeûne de la Vierge, qui commence le 1er août. C'est un jeûne végétarien. Sans huile, on peut utiliser l'huile le samedi et le dimanche.
Plus strict que celui des apôtres dont nous avons parlé il y a 2 mois.
Voilà, tout à fait. L'usage du poisson n'est autorisé que le jour de la transfiguration, en tout cas dans les règles russes. Toute fête, elle est suivie de jours d'après-fête. Alors c'est le principe de l'octave des latins, sauf que les après-fêtes sont plus ou moins longues selon les fêtes liturgiques byzantines. Et là, c'est une grande fête, donc elle a 8 jours d'après-fête. Donc ça fait un jour de plus qu'une octave latine, en fait. Hein. Donc la clôture de la fête est le 23 août en calendrier julien, c'est-à-dire le 5 septembre en calendrier grégorien. Et nous sommes donc le deuxième jour dans l'après-fête, puisque évidemment nous sommes déjà dimanche, puisque le jour liturgique commence au vêpres la veille au soir, comme vous le savez bien si vous suivez ces émissions.
Et est-ce que, comme dans le calendrier latin, toutes les liturgies de l'après-fête sont les mêmes que celles de la fête?
Oui,
ou
on reprend. Non, il n'y a pas de changement. On reprend l'office du jour, on l'ajoute. On reprend l'office de la fête, on l'ajoute à celui du jour. Donc il y a une combinaison entre le saint qui est fêté ce jour et celui de la grande fête. Et le dernier jour de la préfète, qu'on appelle la clôture de la fête, là on reprend intégralement l'office de la fête. Donc le 5 septembre, autrement dit le 23 août, on recélèbre une deuxième fois l'Assomption, mais de façon un peu moins solennelle. mais c'est intégralement le texte de la fête qui est repris ce jour-là. Par exemple, sinon, selon les jours, on reprend une portion du canon des matines et on le distribue sur les différentes liturgies de chaque jour pendant cette octave. Voilà.
D'accord, et donc là, nous sommes en le deuxième jour de la préfète, de la dormition.
Ou de l'assomption, selon qu'on voudra.
Mais en Russie, on utilise plutôt le terme dormition.
Alors, il n'y a qu'un seul terme, en fait, Ouspensky, et qu'on peut traduire plutôt par dormition ou assomption. Enfin, bon, il y a des concepts un peu théologiques différents. La dormition insiste sur le fait que la mère de Dieu s'est endormie d'un sommeil qui n'était pas celui de la mort définitive, et l'assomption que son être, chair, âme et esprit, a été aspiré quelque part par le Seigneur vers les cieux. Voilà, alors il y a un débat actuellement théologique qui s'instaure de plus en plus dans une perspective de faire des ruptures avec le monde catholique, puisque l'Église catholique a proclamé en 1950 que c'était un dogme que la Vierge Marie était montée avec son corps au ciel. Le pape Pie XII n'a pas précisé s'il y avait eu mort ou pas mort dans sa définition dogmatique, mais en tout cas, elle n'a pas subi la corruption que toute chair humaine subit en raison du péché originel. Et étant exemple de ce péché. Et,
donc il n'y a pas de problème là-dessus, voilà. Vis-à-vis des orthodoxes.
Bah si, parce que certains du coup disent mais non, il n'y a qu'une dormition pour le corps, on ne sait pas, etc. Alors que les textes de la liturgie byzantine sont très clairs. Hein. Par exemple, dans le canon, dans la quatrième ode du canon de Matine, écrit par Saint Jean Damascène, eh bien Saint Jean Damascène écrit ce texte: alors que tu étais transféré vers les cieux, ô Mère de Dieu, dans la crainte et la joie, les puissances angéliques couvraient de leurs ailes très saintes ton corps très vaste qui a accueilli Dieu. Donc la fête proclame qu'elle est montée avec son corps au ciel, en fait. Hein, donc, en tout cas, c'était clair dans l'esprit de Saint Jean Damascène au 8e siècle. Et donc,
en fait, on se retrouve un peu dans la situation comme ce que vous aviez évoqué pour le filioque.
Oui.
Ou après coup, on va essayer de justifier
pour trouver des sujets de discorde là où il n'y en avait pas initialement, en fait. Hein. Il y a eu le même type de dispute autour de la notion de purgatoire. Voilà, en fait, en réalité, c'est la même foi qui est professée de part et d'autre, mais on va s'attacher à montrer plus les différences que les points d'unité, ce qui est un peu dommage peut-être quand même. Voilà. Alors c'est en tout cas cette doctrine de la Mère de Dieu emmener corps et âme au ciel a été professée longtemps par différents pères de l'Église orientale. Et en particulier pour la Russie, il y a des textes très clairs de l'Assomption du corps de la Vierge par Saint Philarète de Moscou, et par un saint dont on parlera peut-être au cours de cette émission, Saint Dimitri de Rostov, voilà, qu'on va évoquer peut-être plus tard dans nos affaires avec Pierre le Grand, mais Saint Dimitri de Rostov, son texte sur l'Assomption, parle bien de l'Assomption du corps de la Vierge. Donc voilà, et c'est ce que disent les différentes pièces de la liturgie.
Alors, est-ce que vous allez nous faire écouter
les pièces? Alors, on va écouter quelques extraits de chants liturgiques. Le Troper, le Kondak, bien sûr, comme souvent. Méfiez-vous, parce que le mois prochain, ce ne sera pas le cas, cher Benjamin. Pour une fois, on aura peut-être... Si, on aura le Troper, je dirais n'importe quoi. Voici le Troper de la fête de la dormition, qui parle de cette assomption du corps. Hein. Dans l'enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta dormition, tu n'as pas abandonné le monde, ô Mère de Dieu. Tu as été transféré à la vie, étant mère de la vie. Et par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort. Alors, on va écouter un très bel enregistrement de ce troper par les moines de la Laure des Grottes de Kiev.
Thank you.
Donc nous venons d'entendre le troper de la fête de la Dormition de la Vierge, puisque là nous sommes dans le deuxième jour de l'après-fête, c'est-à-dire ce que nous appellerions l'octave. En Occident.
Octave qui existait d'ailleurs pour la fête de l'Assomption et qui a été stupidement supprimée en 1960-62 dans le nouveau code des rubriques pour le rite latin. Mais c'est bien dommage en tout cas. Parce que ça marque aussi dans l'esprit des peuples que c'est une fête importante qui doit se prolonger. Voilà, il reste plus que les octaves de Pâques et de Pentecôte et de Noël, mais toutes les autres octaves ont été hélas abolies en 1960-62.
Et je rappelle que c'est pour ça que vous avez un jour férié pour Pâques et plus ou moins pour Pentecôte, puisque oui, c'est les restes de l'octave, octaves de Pâques et de la Pentecôte.
Qui était au Moyen-Âge complètement férié. Donc voilà.
Et qui d'ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, le 26 décembre est férié aussi pour la même raison.
Oui, tout à fait. Je me demande si le mardi n'est pas aussi férié en Alsace-Moselle. Je ne crois pas.
Non. Mais peut-être le 26 Pâques. Décembre.
Oui.
Parce qu'ils ont le vendredi saint aussi.
Le vendredi saint, oui, sûr.
Et alors, est-ce que vous nous faites aussi écouter le Kondak?
Oui, le Kondak. Oui. Le Kondak, donc cette autre pièce, comme le troper qui est chanté ou récité quasiment à tous les offices de la fête, hein, vêpres, matines, prime, tierce, sex non, divine liturgie. Voici le texte de ce Kondak très ancien. La Mère de Dieu qui jamais ne se lasse d'intercéder pour nous et dont la protection ne pouvait cesser d'être notre espérance, ne se laissa pas vaincre par la mort ni le tombeau, puisqu'elle est la mère de la vie, et qu'elle a rejoint la source de la vie, celui qui demeura dans son sein virginal. Et on va écouter une très belle mise en musique de ce célèbre Kondak de l'Assomption par Serge Rachmaninoff.
Thank you. Thank you.
venez d'entendre ce très beau Condac de la fête de la Dormition de la Vierge par Serge Rachmaninov avec ses belles basses qui, oui, qui concluent ce Condac assez long quand même.
Oui, et très fastueux, hein, très typique de, des compositions de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui fleurissent et qui continuent d'ailleurs en Russie. Voilà, et j'ai choisi de présenter le même Condac, mais avec un autre compositeur, moins connu que Rachmaninov, bien sûr, Nicolas Golovanov, qui meurt en 1953. Et nous écoutons ce Condac, je rappelle sa traduction, « La Mère de Dieu qui jamais ne se laisse d'intercéder, ne se lasse d'intercéder pour nous, et dont la protection ne pouvait cesser d'être notre espérance, ne se laissa pas vaincre par la mort ni le tombeau, puisqu'elle est la mère de la vie, et qu'elle a rejoint la source de la vie, celui qui demeura dans son sein virginal. »
Donc nous venons d'entendre une nouvelle fois le Condac de la fête de la Dormition de la Vierge, cette fois par le compositeur Golovanov.
Oui, Nicolas Golovanov, qui a été maître de chapelle dans sa prime jeunesse quand il était tout jeune, sorti du conservatoire de Moscou.
Donc là c'était encore l'époque de l'Empire.
C'était encore l'époque de l'Empire, et puis ensuite il a passé toute sa carrière dans l'Union soviétique et est devenu chef d'orchestre puis directeur du Bolchoï. Il a été directeur musical de l'orchestre symphonique de la radio d'état de l'URSS. Il a obtenu 4 fois le prix Staline Et ça ne l'a pas empêché de composer des sublimes kondaks à la mère de Dieu. Voilà. Bien. Alors, on va continuer encore à évoquer cette fête majeure avec une pièce qui pour moi est d'une grande beauté par son texte et qui est en fait le Zadostoïnik. C'est un extrait du canon des matines, de la 9e ode du canon des matines, mais qu'on rechante à la divine liturgie pendant l'anaphore eucharistique après l'épiclèse, lorsqu'on fait mémoire de la Vierge. Voici le texte pour la fête de la Dormition. Lorsqu'ils virent la Dormition de la Toute Sainte et Immaculée, les anges furent émerveillés, admirant que la Vierge pût monter de la terre jusqu'aux cieux. Toutes les générations, nous te disons bienheureuse, toi la seule Mère de Dieu. Les lois de la nature ont été vaincues en toi, ô Vierge Immaculée. Ton enfantement te garde, Vierge, et ta mort préfigure la vie. Toi qui demeures vierge après l'enfantement et vivante après ta mort, ô Mère de Dieu, sauve toujours ton héritage. C'est un texte de saint Jean Damascène. Nous allons écouter...
Et qui est très clair sur la montée aux cieux.
Du corps, oui. Et puis, le parallélisme, ton enfantement te garde vierge et ta mort préfigure la vie. Les lois de la nature ont été vaincues en toi. C'est merveilleux. Oui. Et donc, on va écouter une première mise en musique par... qui est dû à une composition du hiéromoine Philippe Nesielov. Elle est interprétée par le chœur de chambre de l'école des chefs de chœur liturgique de l'Académie de théologie de Moscou sous la direction du hiéromoine Philippe Nesielov. On va d'abord écouter une composition de Tourtchaninov, chantée par le chœur de l'église de la Dormition du couvent Novodievitchi, dirigée par l'igoumène Pierre Poliakov. Donc nous venons d'écouter le Mégalinaire ou Zadostoïnik de la fête de la Dormition. C'est une mise en musique de Tourtchaninov. On va écouter une composition moderne maintenant du hiéromoine Philippe Nesedov qui dirige du reste le chœur pour sa composition. Le chœur donc des chefs de chœur de l'Académie de théologie de Moscou. Thank you.
Donc nous venons d'entendre une nouvelle fois le mégalinaire de la fête de la Dormition de la Vierge, interprété, donc une composition contemporaine interprétée par le chœur des chefs de chœur de la faculté de théologie de
Moscou.
De Moscou.
Oui. Qui a une école en fait pour apprendre à devenir maître de chapelle en fait. Hein. C'est voilà. C'est pris au sérieux.
Comme à l'archidiocèse de Paris, pardon.
Voilà. Non, c'est la musique d'église est une chose sérieuse, en tout cas en Russie. On la laisse pas, la petite animatrice.
Non, mais en France aussi, nous avons Glorious.
Bon, ok. Alors, revenons peut-être à l'histoire russe maintenant. On l'avait laissé la fois dernière avec
Soupir le Grand, avec les guerres contre la Suède.
Ils ne sont pas finis, on va continuer encore, mais en tout cas il y a eu la grande victoire de Poltava, et puis on avait évoqué la dernière fois surtout les réformes, les très nombreuses réformes, on ne pourra pas toutes les évoquer parce qu'elles sont vraiment très multiples et puis avec des détails parfois complètement stupéfiants.
Et peut-être rappeler aussi que Pierre le Grand a eu un règne très long de plusieurs dizaines d'années.
Oui.
Ce qui lui a laissé le temps de...
Plus d'une une trentaine d'années, je crois, de règne, c'est pas mal pour l'époque, oui. Et en fait, avant de reprendre le cours de la description des réformes, on avait vu la fois dernière plutôt des réformes sociétales, c'est-à-dire l'ordre de la noblesse qui était hiérarchisé en 3 fois 14 rangs, de multiples dispositions sur la société, notamment la situation des femmes qui change beaucoup en fait. Hein. On passe d'une situation très orientale à quelque chose de plus moderne. Avant de reprendre le train des réformes, en voyant surtout aujourd'hui les réformes de l'Église, chose qui va nous intéresser au plus haut point bien sûr, je vais évoquer la fondation de Saint-Pétersbourg en fait, parce que quelque part, c'est aussi une réforme en soi. C'est une nouvelle capitale, on quitte Moscou, on veut...
C'est jamais anodin de créer une nouvelle capitale.
Nouvelle capitale, c'est toujours un projet derrière, et c'est un projet de changement pour toute la Russie qui se concrétise par cette ville, en fait. Hein. Alors, l'acte de fondation est posé en 1703, et en 1703, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à cet emplacement? Eh bien, c'est l'exutoire de la Neva dans le golfe de Finlande, qui se divise en plein de bras, 4 bras principaux, la Grande Neva, la Petite Neva, la Grande Nevka, la Petite Nevka, avec de nombreux affluents, des rivières aussi qui rejoignent le fleuve, la Fontanka est l'une des plus connues. Tout un dédale de cours d'eau, de lacs et de d'îles, 19 îles naturelles dans cet estuaire, et surtout des marécages.
Mais Nevka, ça veut déjà dire la petite Neva.
Oui, tout à fait.
Petite Neva.
Oui. Et ces îles portent des noms jusqu'alors finno-ougriens. Et c'est sur l'île aux lièvres qu'en 1703, Pierre va poser la première pierre de sa future cité en construisant une forteresse, la forteresse Pierre et Paul, qu'on visite encore aujourd'hui, hein, qui va rassembler là surtout une garnison au départ de soldats, des soldats réguliers, mais aussi des Cosaques, des Tatars, des Kalmouks. Et puis il fait venir plus de 40 000 hommes, des paysans de l'intérieur, pour donner une première impulsion à sa ville. Lui-même va s'installer dans une petite baraque, une petite maison en bois sur la rive droite pour surveiller la construction de sa nouvelle capitale. Et au départ, les premiers projets ne sont pas tout à fait à l'emplacement principal de la ville actuelle, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la rive méridionale maintenant à Saint-Pétersbourg, et les premiers projets sont sur l'île aux buffles de Vassili Ostrov, qui est plutôt au nord en fait du centre-ville actuel, et puis progressivement sur la rive méridionale qui va donner Saint-Pétersbourg, on va construire l'amirauté, La première église, l'église Saint-Isaac, qui est devenue la cathédrale Saint-Isaac, mais au départ c'est une simple église en bois. Et alors que c'est une magnifique cathédrale néoclassique maintenant, en marbre et en bronze, toute étincelante maintenant, qui a été longtemps musée de l'athéisme pendant l'ère soviétique, qui est redevenue une cathédrale orthodoxe. Et puis Pierre le Grand va faire construire un monastère, Saint-Alexandre Nevski, pour y apporter les reliques de Saint-Alexandre Nevski, son lointain ancêtre. Alors c'est pas la même dynastie, mais il y a quand même des liens de famille. Et puis de ce monastère Saint-Alexandre Nevski va émerger une magnifique avenue qui va être fameuse entre toutes en Europe, la perspective Nevski, qui est cette longue artère qui traverse tout Saint-Pétersbourg de nord au sud. Parmi les premiers bâtiments, il y aura aussi la maison du comte et amiral Apraxine, son ami d'enfance avec qui il faisait du canot au départ et qui est devenu amiral de la flotte. Et c'est sur l'emplacement de cette maison que sera plus tard construit le palais d'hiver. Et on commence à construire des hôtels élégants sur la perspective Nevski. Alors pour construire toute cette ville, il faut faire affluer du monde. Avec ses méthodes très autoritaires, Pierre va avoir beaucoup d'ingéniosité. Et notamment, il va interdire toute construction en pierre dans l'Empire russe, sauf à Saint-Pétersbourg. Donc si on veut faire construire sa maison en pierre, il faut venir à Saint-Pétersbourg pour le faire. Sinon, on sera exilé et on verra ses biens confisqués. Donc voilà. Et il va encore. Et du coup, ça fait venir tous les maçons. C'est-à-dire que tous les maçons de l'Empire vont affluer à Saint-Pétersbourg, ce qui fera une main-d'œuvre abondante pour la construction des palais, des beaux bâtiments qui font la gloire de cette ville encore aujourd'hui. Et il va plus loin, tout propriétaire terrien qui possède 500 serres doit obligatoirement avoir sa maison à Saint-Pétersbourg. Donc même si on est au fin fond de la Sibérie, eh bien à partir du moment où on est un seigneur qui possède des terres avec 500 serres, on doit absolument avoir son hôtel particulier en pierre avec deux étages au minimum à Saint-Pétersbourg. Alors il y a quand même une petite tolérance. Si on est propriétaire mais pauvre, on peut s'associer avec d'autres propriétaires pour construire un hôtel commun à Saint-Pétersbourg, bon, pour partager les frais.
Donc c'est une méthode quand même assez différente de celle de Versailles.
Oui, tout à fait.
Et... Non, mais même dans la conception, parce que à Versailles, ils n'ont pas cherché à développer, Louis XIV ni Louis XV n'ont cherché à développer autant la ville.
C'était pas un projet de ville, c'était un projet de palais. Mais il n'y avait pas eu... La ville s'est construite par elle-même, mais en fait, elle faisait pas partie du projet.
Oui, mais ça jouait quand même le rôle de capitale. C'était le palais de la capitale.
Oui, après, la notion de capitale n'était pas aussi nette qu'à notre époque, évidemment, dans ces époques-là. Hein, disons que c'est le siège du pouvoir, en fait, c'est autour du souverain. Là où est le souverain, là est le pouvoir. Mais Louis XIV n'arrêtait pas de bouger, il n'était pas toute l'année à Versailles, en fait. Hein, la cour se déplaçait à Fontainebleau, à Compiègne, à Marly beaucoup, à Rambouillet, donc... Où était le roi, était aussi la cour.
Voilà. Après, Louis XV se déplacera beaucoup moins.
Beaucoup moins, oui. Mais quand même encore. Hein. Et Louis XVI, beaucoup moins, en fait. Mais voilà. Et pour revenir à Saint-Pétersbourg, bien sûr, comme c'est sur des marécages, il faut non seulement amener de la pierre qui n'est pas sur place, donc ça complique beaucoup les choses, mais enfin, par bateau, ça arrive. Mais surtout, il faut enfoncer des milliers de pieux, comme à Venise, hein, pour pouvoir édifier en pierre par-dessus, parce qu'on est sur des terrains trop meubles en raison de l'humidité, de l'eau, etc.
Alors nous allons entendre le bobino de mi-émission.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère. Ne nous abandonnez pas maintenant. Avec un seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Merci par avance pour votre soutien, chers auditeurs, puisque c'est que grâce à vous que nous pouvons réaliser toutes ces émissions, et notamment celle-ci.
Voilà. Alors cette ville, bah, ça va être la Venise du Nord ou l'Amsterdam du Nord. Elle est très semblable à ces deux cités. Ça va être magnifique et c'est une chose à voir dans sa vie quand même. C'est quand même une merveille, une prouesse architecturale d'avoir construit une capitale sur un terrain aussi compliqué, meuble. Alors
qui l'a construit?
Des milliers de serres au départ. Les tout premiers travaux se font même sans outils, quasiment à main nue, enfin, et puis progressivement les choses se mettent en place. Ça prend du temps, hein, c'est pas en une année. Tout le règne va être consacré à la construction de la capitale. Les travaux progressent bien. En 1706, Pierre le Grand écrit à Menchikov que sa capitale est en bonne voie et il lui écrit qu'il lui semblait ici être en paradis. Donc déjà il était très satisfait et lui-même met un peu la main à la pâte. C'est lui qui va par exemple décorer l'église de Pierre et Paul, de la citadelle sur l'île Pierre et Paul. Il va faire des ouvrages en ivoire, par exemple, pour décorer le sanctuaire. Enfin, bon,
c'est quand on va à Saint-Pétersbourg, ce qui serait très frappant, la grande unité architecturale de la ville. Alors, est-ce qu'il y a un architecte unique qui dessine les principaux bâtiments?
Non, pas à ma connaissance. Non.
Mais il y a quand même des architectes européens.
Oui, et puis la construction a continué bien après Pierre, en fait. Hein. Donc, on a des styles différents, mais vous avez raison, il y a malgré tout une belle unité dans le centre-ville, alors que les bâtiments peuvent être vraiment de périodes très différentes. Et un petit détail cocasse, on est en plein marécage, il n'y a pas de fourrage pour les chevaux. Et donc Pierre va interdire l'usage des voitures et va exiger que tout le monde se déplace en bateau, en barque en fait, sur les canaux. Donc tout habitant devait avoir son propre bateau et on ne pouvait pas venir à la cour du tsar que autrement que par eau en fait. Hein. On ne pouvait pas arriver en carrosse, c'était interdit. Donc voilà, alors il va, en parlant de bateau, il va installer son premier petit canot qu'il avait conservé, qui était l'ancêtre de sa fière marine, l'aïeul de la flotte russe, comme il l'appelait, qu'il va installer dans la citadelle Pierre et Paul. Et dans cette citadelle, du reste, il va exiger que lui-même y soit enseveli. Il rompt avec la tradition qui voulait que les tsars se fassent enterrer à la cathédrale Saint-Michel du Kremlin de Moscou. Et il désigne Pierre et Paul comme le lieu de sépulture pour lui-même et pour tous ses successeurs. En fait.
Mais est-ce que le canot y est toujours ?
J'ai pas souvenir, il faudrait que j'y retourne en fait. Ouais. Est-ce qu'il aurait disparu? Il faudrait que je recherche ça, mais bon. Alors il y a une très belle citation de Pouchkine pour parler de cette nouvelle capitale qui va bien sûr détrôner la vieille Moscou. Devant la nouvelle capitale, écrit Pouchkine, Moscou s'est incliné de la tête comme s'incline devant la jeune tsarine une veuve impériale. Et effectivement, il y a une rivalité entre les deux villes, la modernité, la tradition, voilà, le clan de Moscou contre le clan de Saint-Pétersbourg se met en place.
L'Europe, l'Asie.
Voilà, voilà. Alors, cette situation sur l'embouchure de la Neva n'est pas sans difficulté comme on peut imaginer, puisque régulièrement, il y a des inondations. Alors, on va construire des quais et endiguer, mais ça va prendre du temps. La première grande inondation est en 1705. En 1721, toutes les rues sont inondées et Pierre lui-même manque de se noyer sur la perspective Nevski. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il y a une inondation, les ennemis des réformes de Pierre, exaspérés de l'abandon de Moscou, se réjouissent évidemment de ces désastres et prédisent que dès la mort de Pierre, cette ville allemande, bâtie par des mains étrangères, souillée par la présence de temples hérétiques, disparaîtra immédiatement sous les flots. Parce qu'effectivement, il y a une tolérance qui se met en place sur la perspective Nevski, c'est toujours le cas aujourd'hui. On va autoriser la construction d'églises qui ne soient pas russes orthodoxes. Donc il y aura une église catholique, un temple luthérien, une église apostolique arménienne, qui dès l'époque de Pierre se mettent en place. Hein, et ça, c'est une nouveauté. Et c'est aussi quelque part... ça fait partie du projet de Pierre pour Saint-Pétersbourg, c'est d'avoir une fenêtre ouverte sur le reste du monde, où les éléments étrangers se mêlent harmonieusement avec l'élément russe, en fait. Hein.
Oui, et une ville ouvertement tournée vers l'Europe occidentale.
Voilà, de par sa situation, déjà, sur le golfe de Finlande. Et c'est aussi une position qui est très étrange au début. Alors, on est aux tout premières années de la Grande Guerre du Nord qu'on a déjà évoquée, mais en 1703, mettre une capitale là, c'était complètement fou, puisque c'était littéralement à la frontière d'un immense empire. On met pas, ça défie toute logique de géopolitique de mettre sa capitale à la frontière, en fait, hein, et c'est prendre un risque terrible. Alors, on a fait reculer la frontière grâce au succès des armes, notamment après Poltava, et même avant Poltava, on va conquérir l'Estonie actuelle, une grande partie de la Lettonie actuelle, la Livonie. La Courlande reste encore sous le giron de la couronne polonaise, mais et puis l'Hongrie, c'est tout l'arrière-pays de Saint-Pétersbourg est conquis, et on commence à conquérir aussi la Carélie, on s'avance vers la Finlande. Donc,
la Carélie, c'est l'autre bout de la péninsule, à l'ouest c'est la Finlande, et la Carélie c'est la partie est de cette même péninsule.
Exactement. Et donc on repousse les frontières, mais au départ, lorsque la première pierre est posée, on sait vraiment un fort de frontières, en fait. Hein, donc c'est complètement fou d'imaginer de faire sa capitale là. Alors justement, cette ville est l'emblème, quelque part, du train de réforme, des très nombreuses réformes engagées par Pierre le Grand. J'ai déjà évoqué certaines réformes. Avant d'évoquer la réforme de l'Église, quelques autres réformes encore, des réformes sociétales aussi, des réformes sur la sécurité. Pierre est très attaché à la sécurité à l'intérieur de la Russie. Pendant des siècles, la Russie est parcourue de bandes de pillards, de brigands, de grands chemins. On met en place une police très efficace avec de très grands effectifs, puisque les décrets impériaux vont exiger qu'il y ait un inspecteur de police pour 10 maisons.
Ah oui.
Ce qui est quand même assez énorme. Et tous les citoyens âgés de 20 ans étaient astreints au service du guet, c'est-à-dire que vous étiez membre de la police à tour de rôle, par roulement, en fait, et vous étiez responsable de la sécurité.
Ça vaut presque la Syrie de l'Ancien Régime.
Ah bon? C'était comme ça.
Ah, il y avait des... Oui. Il y avait des gens qui restaient toute la journée sur une chaise à chaque coin de rue.
Et donc, et Moscou notamment à cette époque justement va gagner en sûreté, et en propreté également. C'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte que les rues qui étaient des cloaques deviennent des rues pavées. Les domestiques sous perne d'amende, de verge ou de knout sont tenus de veiller à la propreté de la maison de leur maître. On s'occupe pas de chasser les mendiants, mais de trouver des solutions pour la mendicité. Qu'il y ait moins de vagabondage, créer des maisons de travail pour les vagabonds. On va aussi établir des hôpitaux pour les malades. On ramasse un peu tout ce qui traîne dans les rues pour les mettre dans ces maisons de travail ou dans ces hôpitaux. Voilà, donc ça va être un assainissement général. Bien sûr, comme toutes les réformes de Pierre le Grand,
menées à
tambour battant avec le Knut derrière. Voilà.
Vous parliez de réforme sociétale, c'était à quoi faisiez-vous allusion ?
Alors, c'est sur...
L'euthanasie, c'est ça ?
Hélas, eh bien, il y a notamment le problème de corruption, évidemment, qui existait depuis, qui est endémique en Russie. Et en fait, il va s'attaquer à ça d'une manière un petit peu étrange. En utilisant l'arme de la délation. Et donc, il suffit de pousser un cri, Tlovo et Dielo, parole et action, et en fait, le dénonciateur et le dénoncé se retrouvent immédiatement conduits dans une salle où on va mettre à la question, donc à la torture en fait.
Et alors, qui mettons à la torture ?
Alors, le dénoncé en fait.
Ah oui. Hein, et donc, on met pas les deux à la torture.
Non.
Mais je pense qu'il y aurait eu moins de dénonciation.
Donc ça va être une des actions qu'il va mener. On va aussi parallèlement mettre un genre de service secret en place pour surveiller un peu un genre d'inquisition d'État, si vous voulez. Donc un KGB avant l'heure, notamment pour dénoncer tous ceux qui en apparence adhèrent aux réformes mais qui en fait font l'inverse en privé. Par exemple, les dames de Moscou revêtaient le costume européen quand le tsar était présent et puis le rejetaient avec mépris dès qu'il était reparti. Mais justement, il y a tout un service qui se met en place pour une chancellerie secrète. Qui va s'occuper de veiller à tout ça. En matière de finances, il va également faire évoluer le système d'imposition russe, puisqu'il va remplacer l'impôt par feu qui était traditionnel. Donc on paie pour l'établissement, pour une maison, pour un domaine, par un impôt par capitation. Donc c'est un impôt par tête, par personne en fait, un impôt personnel. Les ecclésiastiques, les nobles et les soldats retraités sont exemptés de l'impôt. De même que les nouvelles provinces baltiques, pour s'assurer de leur bonne grâce, ainsi que les Lapons. Mais même les paysans libres sont soumis à la
capitation. C'est un impôt qui est sur quelle base ? Sur les revenus ? Sur le patrimoine ?
Bonne question.
Sur le patrimoine,
j'imagine sur le patrimoine, oui. Il y a un papier timbré, comme on avait en France à la même époque, qui permet de payer des taxes, en fait, qui se met en place aussi à l'époque. Voilà. Et puis, on va imposer doublement les Raskolniki, donc les vieux croyants, qui seront soumis à la double imposition. Les porteurs de barbe doivent payer entre 30 et 100 roubles suivant leur état de fortune. Les paysans devaient payer 2 deniers pour pouvoir rentrer en ville en portant leur barbe. Sinon, s'ils ne voulaient pas payer la taxe, ils devaient se raser avant d'entrer en ville. Alors on fait des taxes sur tout, sur les bains, sur les cabanes, sur les moulins, sur les abeilles et sur les cercueils, chose très étonnante. Pierre ordonne un jour de saisir tous les cercueils et de les vendre au profit de la couronne, en fait. Donc il y a une nationalisation des cercueils, en fait. Mais il fallait trouver des sous pour payer les guerres, hein, c'est toujours le même problème. Donc voilà, il y a des monopoles d'État qui s'établissent. Et ça marche puisque le budget de l'État passe de 1710 à 1725, de 3 millions à 10 millions de roubles en fait. Hein, donc les entrées d'argent pour l'État. Donc voilà, on arrive à trouver les moyens d'avoir des perceptions qui sont efficaces.
Donc ça c'est grâce à l'agriculture, j'imagine. Au dynamisme.
Oui, il y a un dynamisme, on va en reparler. Il y a d'autres aspects. Il y a notamment un dynamisme économique, évidemment, puisque beaucoup d'étrangers viennent établir des manufactures. Je vais en reparler un peu plus tard. Mais il y a une vraie croissance économique de la Russie, ça c'est indéniable, sous Pierre le Grand. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste 25 minutes pour aborder la réforme de l'Église. Alors, ça, c'est un point qui est bien sûr intéressant dans nos émissions.
Alors, rappelons que l'Église sort à peine de la crise
des vieux croyants. Elle est toujours très impliquée dans cette crise. C'est une vraie catastrophe. Et en fait, au début du règne, le patriarche Adrien meurt en 1700. Et en fait, Pierre va profiter de cette mort du patriarche. Il va empêcher l'élection d'un nouveau patriarche, en fait. Donc, il va choisir un certain Étienne Iaworski comme locum tenens, qui va le rester pendant 21 ans. Locum tenens, c'est encore actuellement celui qui tient lieu de patriarche, en fait. Hein. Il a le titre de surveillant du trône patriarcal. C'est un patriarche dans les faits, mais il n'a pas le titre, en fait. Et donc, pendant cette période de 21 ans, eh bien, Pierre va réfléchir à une nouvelle organisation ecclésiastique. Et en fait, de ces 21 ans, va accoucher quelque chose qui a été qualifié de très protestant comme disposition. On va dire qu'on va instituer une église sans patriarche, mais gouvernée par un saint synode. L'âme de cette nouvelle organisation est un ecclésiastique, Théophane Prokopovitch, qui est très lié à Pierre. Et qui va même rédiger l'édit qui va instituer le Saint-Synode en 1721. Cet édit est précédé d'un préambule très intéressant. Et voici ce qu'on peut y lire dans ce préambule de l'établissement du Saint-Synode, qui en fait supprime le rôle du patriarche de Moscou. L'organisation collégiale ne saurait faire redouter à la patrie les troubles et les séditions qui peuvent survenir quand c'est un homme seul qui se trouve à la tête de l'Église. Le simple peuple est inhabile à saisir la distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir impérial. Frappé de la vertu et de la splendeur dont brille le suprême pasteur de l'Église, il s'imagine que celui-ci est un second souverain, égal en puissance à l'autocrate et même supérieur à lui. S'il survient un désaccord entre le patriarche et le tsar, il est disposé à se ranger du côté du premier, s'imaginant qu'il embrasse ainsi la cause même de Dieu. Donc, c'est un ecclésiastique qui l'écrit. Et c'est vrai que le patriarche de Moscou a été longtemps le contre-pouvoir du tsar, en fait. Hein. Souvenons-nous de Saint-Philippe de Moscou, assassiné par Ivan le Terrible dans sa prison. Le patriarche de Moscou, voilà, il avait osé défier l'autorité du tsar. Donc,
celui-ci qui était... qui avait signé un accord avec... Non, vous avez parlé d'un évêque qui avait été destitué après avoir... Non, c'était bien avant.
Non, oui. Non, Saint-Philippe de Moscou, simplement rappelait la foi chrétienne et face à Ivan, et donc il dénonçait les crimes d'Ivan le Terrible, et en fait, il a été déposé par le tsar, et le bourreau du tsar est venu l'étouffer, en fait, dans sa prison. Donc, voilà. Il est considéré comme martyr pour l'Église russe, en fait. Évidemment, le tsar a toujours eu des rapports potentiellement conflictuels, et ça, Théophane Prokopovitch a tout à fait raison, en fait. Hein. Son préambule ne fait que dire...
Il n'y a pas toujours eu une soumission tranquille de l'Église au pouvoir impérial.
Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Évidemment, il y a des... comment dire ça se met un peu en place plutôt facilement, mais on a eu une vacance du siège de Moscou pendant 21 ans, donc on a appris à se passer d'un patriarche.
Et il donne une justification à ce moment-là, l'empereur ou...
Non, pas spécialement. Et donc c'est quand même... une réforme majeure qui va durer jusqu'en 1917. En 1918, on a à nouveau un patriarche de Moscou jusqu'à
après
aujourd'hui.
Après la Révolution.
Et oui. Et au moment, le Concile de Moscou de 1917-1918 va remettre en place un patriarche, en fait. Hein. Cette réforme de l'Église est importante pour Pierre, puisque il n'a plus une autorité, mais il a un organisme qu'il peut manipuler et diriger.
Oui, qui est plus un organisme administratif.
Voilà, et avec un représentant de l'empereur qui est souvent un militaire, qui est le procureur du Saint-Synode et qui siège en permanence et donc qui peut...
Et qui est en fait le véritable chef du
Saint-Synode. Et qui va orienter les travaux du Saint-Synode. Cette organisation synodale va quand même durer près de 2 siècles et il en reste quelque chose encore dans l'Église russe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un Saint-Synode comme dans la plupart des églises orthodoxes de fait, hein, mais le Saint-Synode
permanent,
permanent autour du patriarche de Moscou actuel, il continue à avoir une action importante. Il nomme pas mal de fonctions. C'est lui qui choisit les évêques, par exemple.
Ça, c'est assez classique dans les églises orientales.
Oui.
Oui. Toujours.
Mais j'ai l'impression quand même que de toute la période synodale, l'Église russe actuelle garde quand même quelque chose, en fait. Le patriarche de Moscou n'est pas totalement libre de faire tout ce qu'il veut. L'action du synode est très importante aussi. Et l'action du concile aussi, puisqu'ils font un concile tous les 4 ans. Et donc le synode remplit un peu le rôle d'organisme interconcile, en fait, pour traiter toutes les affaires entre
le
deux
conciles. Le concile, c'est pour tous les évêques
ou tous les évêques, oui. Les évêques et les abbés aussi des principaux monastères.
Il faut dire aussi que contrairement aux églises précédentes dont nous avons parlé, il y a une question de taille très différente.
Oui.
Puisqu'on a souvent parlé d'églises qui ont une quinzaine, une vingtaine d'évêques en tout. Là, donc effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un Saint-Synode permanent en plus du Saint-Synode qui se réunit une à deux fois par an.
Alors le synode établi par Pierre en 1721, au départ comporte 10 membres, puis on passe à 12, chiffre beaucoup plus symbolique, et le 13e est l'Oberprokuror, effectivement, hein, ce procureur qui représente le tsar. Les 12 membres doivent prêter serment d'obéissance au tsar quand ils accèdent au Saint-Synode. Voilà, donc ça devient une administration d'État, et d'ailleurs, au tout début, alors ça a plus été le cas assez rapidement, mais au tout début, le Saint-Synode est établi dans le bâtiment qu'on appelle les 12 collèges à Saint-Pétersbourg, et en fait ce sont les bâtiments ministériels, les différents ministères d'État, hein, l'équivalent de nos ministères d'économie, des finances, etc., et bien sont dans ce bâtiment, et le Saint-Synode est aussi un ministère quelque part, donc voilà, c'est une administration comme une autre, en fait.
Et alors sur la composition de ces 12, il y a certains qui, à mon avis, je crois, sont de droit. Les trois métropolites siègent forcément dans le...
Actuellement, oui, c'est le cas, il me semble.
Mais je crois que c'était le cas dans l'église synodale.
C'est possible.
En tout cas, c'est ce que j'avais lu dans les mémoires de l'archimandrite, ouais, là, qui était aumônier général de l'armée impériale. Et il expliquait très longuement le fonctionnement du Saint-Synode. Et en tout cas, à la fin de la monarchie, il y avait les trois métropolites qui, donc, si je ne fais pas d'erreur, Moscou, Kiev et... Peut-être ça, est-ce qu'il y avait un métropolite à Saint-Pétersbourg ou...
Pas dans les premiers temps.
Non.
Mais ensuite, oui.
Oui, bah donc voilà, c'était ça, Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev, ils étaient de droit membres du Saint-Synode.
Voilà, donc... Alors, c'est un aspect de la réforme de l'Église, mais ce n'est pas le seul. Et le principal aspect qui est beaucoup plus important quelque part, financièrement en tout cas, c'est les possessions ecclésiastiques et notamment les possessions des monastères. Comme en France, au bout de quelques siècles depuis le Moyen-Âge, en fait, à force de recevoir les donations des fidèles, les propriétés monastiques sont devenues immenses, en Russie en particulier. Et donc c'est une question évidemment importante. On a réfléchi même à liquider les monastères. En tout cas, on va tout faire tout mettre en œuvre pour qu'ils se multiplient pas. Il y a plusieurs dispositions impériales, plusieurs oukases qui vont réglementer la création de nouveaux monastères, réglementer la création de nouvelles églises. Il faut justifier qu'il y ait un réel besoin pour créer une nouvelle église, par exemple. On ne peut pas créer une église comme ça, comme on pouvait le faire jusqu'alors. On se méfie des moines, qui, pour Pierre, sont bien sûr l'élément le plus résistant à ces réformes. Donc on leur interdit, par exemple, d'écrire dans leurs cellules. parce qu'ils pourraient comploter. On leur interdit d'avoir des plumes et de l'encre, et on les oblige à travailler. Donc on va leur donner la charge, alors ça c'est plutôt bien, d'hospice et d'école, et notamment de s'occuper des invalides de guerre. Il y a la même idée de l'institution des invalides par Louis XIV à Paris. On va faire des hospices pour invalides de guerre tenus par les moines, en fait. En revanche, les évêques, eux, vont être encouragés par Pierre à écrire. Alors, si on interdit aux moines à écrire, les évêques, non, il faut qu'ils bossent, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'évêques qui vont écrire, et parmi eux, en fait, il y a une belle figure qui est Saint Dimitri de Rostov, et qui est un membre éminent de l'Église à cette époque-là. Alors Rostov, c'est Rostov sur le Don, qui est vraiment à la frontière, qui était une ville à la frontière, c'était la dernière ville russe avant les Tatars de Crimée, ou à l'embouchure du Don, et puis Pierre a, au début de son règne, attaqué et pris la citadelle d'Azov, donc ça y est, on peut arriver jusqu'à la mer d'Azov, mais c'est une ville importante, et Saint Dimitri de Rostov va faire beaucoup d'ouvrages. Les plus connus, en fait, sont un commentaire sur la vie des saints de tous les jours de l'année liturgique. En fait, il y a plus de 600 notices et qui sont très bien rédigées, avec une hagiographie très posée. On part pas dans des phénomènes de louanges, de faits miraculeux systématiquement, mais on va montrer dans la vie de chaque saint les points importants pour qui peuvent aider le chrétien actuel aujourd'hui à vivre sa vie chrétienne. Et en fait, cet ouvrage est toujours très lu en Russie encore aujourd'hui et très utilisé par l'Église orthodoxe.
Alors, vous voulez bien rappeler comment le nom de l'ouvrage ?
Alors, c'est la vie des saints, les Ménées, de Saint Dimitri de Rostov. Donc, il y a une notice tous les jours et beaucoup de sites web russes la donnent tous les jours, la notice tirée des ouvrages de Saint Dimitri. Donc, vous pouvez lire la vie du saint en ligne tous les jours. Il y a d'autres évêques qui vont lutter aussi contre le protestantisme certains de ces évêques, c'est le cas de Saint Dimitri de Rostov, vont aussi écrire des ouvrages de polémique contre les Raskolniki, les vieux croyants. Donc on a abondamment parlé de ça, je ne vais pas trop revenir dessus. Peut-être juste un mot sur la
politique.
À propos
du protestantisme, est-ce que c'est de cette époque que date le... Quoi, est-ce qu'à cette époque, déjà, par exemple, l'Estonie, donc, qu'on appelait à l'époque la... Bon, bref, c'est pas grave.
L'Estonie,
oui. Oui, l'Estonie était déjà avec beaucoup de protestants.
Oui, oui. Oui, c'était des terres protestantes, oui. La Lettonie aussi. Et oui. Alors le Saint Synode, c'est clairement une, je pense, une imitation de ce que Pierre a pu voir en Hollande. C'est une structure d'église réformée, en fait, quelque part. Et dans l'orthodoxie de l'époque, il y a une tentation vers le protestantisme. une tentation vers le catholicisme aussi.
Mais d'ailleurs, les liens matrimoniaux de la dynastie ont été beaucoup plus vers les dynasties protestantes
d'Europe du Nord. Et ça va commencer à partir de Pierre.
Que vers les dynasties catholiques, oui, y compris de Pologne, puisque en Pologne, il y avait encore des rois catholiques.
Oui, tout à fait. Et là, on va commencer avec Pierre le long usage des mariages avec des princesses allemandes protestantes. Alors, pas pour lui, mais en tout cas, ses nièces, ses filles vont aller dans ce sens-là.
Alors, les filles, ce sera plutôt des princes.
Oui. Bon, il a essayé de marier sa fille à Louis XV, mais ça n'a pas marché. On en reparlera peut-être. Ça aurait été bien d'avoir une princesse russe comme reine de France. Ouais, bon. C'est une Polonaise finalement qui a pris la place, donc, mais qui était catholique, ça posait moins de problèmes.
Oui, mais qui était fille d'un roi qui régnait sur rien du tout, oui. C'était pas le mariage le plus réussi d'un point de vue politique de l'histoire de France.
C'est vrai. Alors lui-même, Pierre, vis-à-vis du catholicisme, va se montrer tolérant. On a parlé de l'ouverture aussi bien de temples réformés que d'églises catholiques sur la perspective Nevski. Alors, l'église catholique, c'est l'église française. Hein, c'est les Français qui vont sur la perspective Nevski, voilà. Mais il y a aussi des capucins qui sont installés à Astrakhan et qui vont être protégés par Pierre le Grand. En revanche, les jésuites sont arrivés, ils ont été chassés une première fois en 1689, puis rappelés, puis re-expulsés en 1718. Alors Voltaire écrit, parlant de Pierre, « Il souffrait comme des sans conscience et regardait les jésuites comme des politiques dangereux. »
Bon. Bien sûr, c'est à cette époque qu'ils ne chassaient pas les jésuites, parce que même les autres catholiques...
Ça paraît, c'est... Oui. Alors, la suite, les jésuites seront justement... en Russie alors qu'ils étaient placés dans l'état catholique. Bon. Il est quand même fièrement orthodoxe, Pierre, et lui qui est si ami avec les Hollandais, par exemple, avec les Allemands, eh bien, lorsque des protestants étrangers insultent la religion orthodoxe en Russie, eh bien, il va se montrer terrible et inflexible. C'est le cas d'une Russe qui était devenue protestante au contact des étrangers allemands, certaine Nastasia Zima, et qui s'était mise à propager la religion de Luther en Russie, et avec son mari et 6 autres néophytes, ils finissent cruellement torturés et trucidés. Voilà. Alors, vis-à-vis des vieux croyants, un mot quand même. On a déjà évoqué longuement les vieux croyants sur ces ondes, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais Pierre est plutôt indulgent avec eux. Notamment avec ceux en province, il reconnaît leur mérite. Ce sont souvent des travailleurs acharnés, et ça, le tsar l'apprécie. Donc il va imposer surtout ceux qui vivent en ville à Moscou le doublement de la taxe et un costume particulier, mais pour ceux qui sont dans les provinces, notamment sur les marches de l'Empire vers la Pologne, eh bien il les laisse totalement libres. Mais il veut pas que le schisme se développe néanmoins, donc on les admet, mais ils restent dans leur coin. Et en fait, la prédication des idées vieilles croyantes va être sévèrement punie. Pour éviter que les populations adhèrent au schisme, en fait. Hein. À cette époque-là, parmi les dispositions ecclésiastiques que prend Pierre, il va rappeler l'assistance obligatoire à la liturgie tous les dimanches. Et l'obligation de faire ses Pâques, de communier à Pâques tous les ans, obligation d'État en fait. Hein,
pour... Et quelle était la sanction? Il y avait de la prison aussi,
Je sais pas, mais probablement qu'il y avait forcément une sanction.
Du Knut.
Voilà. C'était un peu sur ce dernier aspect qu'on peut terminer sur les vents de réforme pour l'Église. Il nous reste quelques minutes pour évoqué d'autres aspects des réformes de Pierre le Grand. Sur le domaine économique, on l'a noté, il va faire venir des entrepreneurs étrangers, français, hollandais, allemands, anglais, et on va ouvrir 200 manufactures
à Saint-Pétersbourg,
un peu partout sur tout le territoire russe. Certaines vont être tenues par des Français ou des Anglais. Il y a même un oukase très intéressant, parmi les milliers d'oukase qui ont été émis, pour autoriser les étrangers à exploiter des mines. Alors, chose assez incroyable, eh bien, vous êtes étranger ou même russe et que vous détectez qu'il y a quelque part une mine de charbon, une mine d'or, une mine de quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez lancer l'exploitation de cette mine même si vous n'êtes pas propriétaire du lieu. C'était pour forcer les propriétaires à ne pas bloquer en fait l'exploitation minière. Alors quand même, si vous êtes le noble du coin qui possédait la terre, celui qui va exploiter votre mine va s'enrichir, mais devra vous donner une compensation. Voilà. Mais c'est un détail économiquement intéressant. Et puis, alors il veut surtout privilégier bien sûr Saint-Pétersbourg, comme on peut imaginer. Et jusqu'à présent, on l'avait dit, le grand port, c'était Arkhangelsk, sur la mer Blanche. Et en fait, Pierre a voulu supprimer complètement le port d'Arkhangelsk. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Hein. Son ami d'enfance, l'amiral de sa flotte, Apraksine, lui a dit que c'était la ruine du commerce russe, que c'était une
même stratégiquement,
stupidité.
C'était peut-être oui. Sage de le garder, puisque...
Ça a évité les détroits danois.
Voilà, tout peut être facilement bloqué, même voilà. La sortie du golfe de Finlande.
C'est ce que les Hollandais lui ont dit. Il suffit
d'un revers militaire.
Voilà, et les Hollandais lui disaient que c'était pas le même type de bateau aussi, que c'était très embêtant parce qu'il fallait refaire une flotte commerciale pour pouvoir aller à Saint-Pétersbourg, qui n'était pas de même nature. Que eux-mêmes les Hollandais devaient payer un droit de passage sur les détroits danois, donc c'était plus compliqué. Tout le monde préférait finalement la Baltique plutôt que
la mer Blanche
et la mer du Nord plutôt que la Baltique. Il y avait un problème de logistique, c'est que les chemins entre Moscou et Arkhangelsk étaient bien balisés, il y avait des relais, on pouvait se faire les vivres pour les chevaux et tout, alors que rien n'était prévu pour Saint-Pétersbourg. Donc il a changé ça, évidemment. Donc il est revenu sur ses pas, il a laissé Arkhangelsk continuer, mais il a voulu relier Saint-Pétersbourg, non seulement par des routes, mais aussi par des canaux. Et donc il y a tout un système de canaux pour rattacher la Neva à la Volga et faire une navigation fluviale continue entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Voilà, alors il y a d'autres aspects intéressants dans les trains de réforme, notamment pour l'agriculture. Il va favoriser l'apparition de nouvelles cultures comme le tabac, de nouvelles races de moutons aussi, parce qu'il faut faire. On fait venir des bergers silésiens pour. Parce qu'il faut de la laine pour faire des manufactures de draperies. Voilà, donc il y a tout un essor économique qui est indéniable. Et à cet essor économique s'associe aussi un essor intellectuel, puisqu'il va mettre en place des écoles. Alors là, le projet éducatif est très loin de l'éducation traditionnelle, c'est-à-dire que faire une académie gréco-latine ça existait à Moscou, ça l'intéresse absolument pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des enseignements pratiques, donc scientifiques.
École polytechnique.
Voilà, c'est ça. Et donc, il va mettre en place différentes structures pour enseigner la géographie, les sciences, la science militaire, la navigation, l'économie, l'agriculture, la linguistique. Et il va faire traduire énormément, en fait. On fait venir toutes sortes de livres qu'on fait traduire pour que le savoir européen occidental se développe en Russie. Et de même, il va aussi faire imprimer en Hollande des livres pour enseigner aux Européens à connaître la Russie. Entre autres, dans cette activité intellectuelle, il va fonder la Gazette de Saint-Pétersbourg, qui est le premier journal qui apparaît à cette époque en Russie.
Merci beaucoup, cher Henri. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la seconde partie de cette émission. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans 4 semaines pour la suite du règne de Pierre le Grand. Et je crois que ça sera la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, sans
tout
vouloir
à fait, oui.
Vendre un grand secret.
Voilà, tout à fait. C'est une belle date. À bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 16 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 22 août de 18h à 19h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.